Voici un enseignement donné dans le cadre de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel. Avant d'entendre cet enseignement, vous entendrez la lecture de textes bibliques, fondement infaillible de ce qui sera ensuite partagé, avec l'humble désir que cela soit profitable dans la main de Dieu pour celui qui l'écoute.
Nous continuons la prédication sur l'épître de Jacques et nous allons donc lire la tranche pour aujourd'hui dans l'épître de Jacques au premier chapitre, les versets 16 à 27. Jacques 1, 16, « Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, tout don excellent et tout cadeau parfait viennent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. » Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à la colère. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Pratiquez la parole et ne l'écoutez pas seulement en vous abusant par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la pratique pas, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir à son visage naturel, et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il est. Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui persévère, non pas en l'écoutant pour l'oublier, mais en la pratiquant activement, celui-là sera heureux dans son action même. Si quelqu'un pense être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tache devant Dieu le Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se garder des souillures du monde. Une deuxième lecture maintenant dans un verset dans le psaume 119. Le verset 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Et maintenant, dans Ésaïe, prophète Ésaïe, premier chapitre, les versets 11 à 18. « Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices ? Dit l'Éternel. Je suis rassasié des holocaustes de béliers et de la graisse des veaux. Je ne prends pas plaisir au sang des taureaux, des agneaux et des boucs. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de fouler mes parvis? Cessez d'apporter de vaines offrandes. L'encens me fait horreur. Quand on ouvre l'une au sabbat et aux assemblées, je ne puis voir le crime avec les solennités. Je hais vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge. Je suis las de les supporter. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand bien même vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de ma vue la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien, recherchez le droit, ramenez l'oppresseur dans le bon chemin. Faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Venez donc et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont rouges comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme l'écarlate, ils deviendront comme de la laine.
Imaginez un corps sans aucun muscle. Eh bien, il ne peut pas bouger, impossible. Eh bien, nous ne comprenons pas la parole de Dieu de la même manière si l'Esprit Saint n'agit pas dans nos cœurs, et c'est sur lui que nous comptons encore aujourd'hui. pour nous plonger dans sa parole, dans cette épître de Jacques. Nous revenons dans cette épître qui est vraisemblablement le premier écrit du Nouveau Testament, comme nous l'avons déjà vu ensemble. Et nous voyons que Jacques, le demi-frère de Jésus, aime ses destinataires. Il leur dit « mes bien-aimés ». Il a de l'affection pour eux. Il désire que ses lecteurs deviennent saints. Et il entame son sujet en parlant des épreuves. Et ensuite, il poursuit, on pourrait dire, par domino. Il parle d'un sujet et il fait penser à un autre sujet. Et il développe sa pensée, en fait, petit à petit, dans cet épître. Il a commencé par l'épreuve qui produit la patience, qui accomplit une œuvre parfaite où rien ne manque. Et là, tout à coup, il dit, s'il manque de la sagesse, eh bien, qu'il la demande. Et là, la demande, mais elle doit être faite avec foi. Et puis, il dit, mais si quelqu'un manque de sagesse, ouais, c'est ça. Et ensuite, l'épreuve peut être une tentation pour les pauvres comme pour les riches. Mais Dieu ne tente personne, en fait. De Dieu vient que le bien. Il nous a engendrés par sa parole. Et il nous invite à être lent à parler et rapide à écouter, à rejeter le mal, à accueillir la parole. Et aujourd'hui, nous allons parler de cet accueil de la parole qui agit, ainsi que ce que signifie la bonne religion. Voilà où nous arrivons avec cet effet domino jusque-là, où Jacques nous invite à cheminer. Vous pouvez reprendre toutes les prédications qu'on a vues jusqu'à maintenant pour nous replonger dans ce texte ou simplement méditer Jacques. Aujourd'hui, nous aurons deux points. Le premier, mettre la parole en pratique, tout simplement, comme le texte le suggère, puisque nous étudions plus spécifiquement les versets 22 à 27. Et ensuite, le deuxième point, qu'est-ce que la vraie religion ? Puisque c'est aussi ce que Jacques enseigne ici. Donc relisons les versets 22 à 25 pour qu'on les ait bien dans notre cœur. Donc Jacques 1, verset 22. Pratiquez la parole et ne l'écoutez pas seulement, en vous abusant par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la pratique pas, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il est. Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de liberté, et qui persévère, non pas en l'écoutant pour l'oublier, mais en la pratiquant activement, celui-là sera heureux dans son action même. Ce texte, en fait, est assez simple, vous êtes d'accord avec moi. Il n'y aurait pas besoin de beaucoup l'expliquer. Simplement, pratiquer et pas seulement écouter. Voilà, on peut s'arrêter. Non, on ne va pas s'arrêter là. Parce qu'on va le mâcher, on va le méditer. Écouter est important, ça c'est un premier élément. Écouter est important parce que sans écouter, il n'est pas possible de mettre en pratique. Si on n'a rien, si on n'entend rien, ben que mettre en pratique? Donc l'écoute, elle est importante. C'est vrai. Mais être chrétien non pratiquant, cela n'existe pas. Désolé pour ceux qui le disent. Chrétien non pratiquant n'existe pas. Vous êtes soit chrétien, soit non pratiquant. On ne peut pas être les deux. C'est comme si vous disiez, j'étais guéri de mon aveuglement, mais vous n'ouvrez jamais les yeux. C'est un peu la même chose. Ou comme cette personne qui est en train de mourir de soif dans le désert, qui a un verre d'eau à côté de lui, qui le voit, qui croit qu'il existe, mais qui ne le prend pas et ne boit pas ce verre d'eau. Il va mourir. Et c'est l'état de ceux qui entendent l'évangile, mais qui ne pratiquent pas, qui ne se repentent pas de leurs péchés, qui ne croient pas que Jésus a payé pour elles. Et Jacques prend, il me donne l'illustration ce matin, je n'ai pas besoin de chercher très loin, il me donne l'illustration du miroir. Connaissez-vous le ministère du miroir? Il a un ministère assez incroyable. Et je suis à peu près sûr que vous avez tous déjà vu un miroir, si vraiment personne n'en a vu, en sortant de la salle, à gauche il y en a un, donc vous pourrez regarder si jamais. Le miroir, pourrait-on dire, est brutalement honnête. Il vous renvoie l'image sans la modifier. Enfin, ça dépend des types de miroirs. On parle d'un miroir qui ne modifie pas. Il nous montre comme nous sommes, comme les autres nous voient. Il reflète tout. Le miroir montre ce que nous ne pouvons pas voir. en quelque sorte. Hein. Il révèle ce qui est caché, comme par exemple, si vous avez encore du chocolat sur les dents. Hein. Vous regardez devant le miroir, puis vous voyez qu'il y a du chocolat sur les dents. Entre nous, le miroir ne va pas brosser vos dents. Hein. Mais il vous révèle, en fait, cela. Parce que c'est la mise en pratique, le brossage de dents. Après. La Bible est un miroir qui nous montre comme nous sommes perçus par Dieu, en fait. Certains disent, en étant devant un miroir, parce qu'ils s'imaginent être autre chose que ce qu'ils sont, ils disent « ce miroir ne me fait pas justice !» Non, mais il ne les laisse pas dans l'ignorance. Certains disent « ce miroir ne me fait pas justice !» Non, c'est vrai, mais il ne les laisse pas dans l'ignorance. La Bible ne nous laissera jamais croire que nous sommes parfaits. Et encore un peu plus loin, parce que ce ministère du miroir a encore deux, trois choses à comprendre ici. Est-ce que la fille qui se maquille arrête de regarder le miroir avant d'avoir terminé? Alors pour ceux qui ne sont pas des filles, ben vous pouvez observer, hein, mais vous verrez, c'est assez intéressant. Ou celui qui se coiffe ou qui se rase, ou qui veut enlever des boutons gênants, hein, c'est un regard attentif qui est posé sur ce miroir jusqu'à la fin de l'opération, afin de mieux voir les détails du visage et d'en prendre prendre soin le mieux possible. Voilà pourquoi il est important de revenir souvent à la parole de Dieu, à s'exercer, à s'en souvenir. Parce qu'en fait, c'est en restant devant le miroir que nous pouvons voir les choses. Je pourrais vous demander, qu'avez-vous lu ce matin dans votre culte personnel? Ou hier ou avant-hier? Je ne vais pas plus loin, on ne va pas aller trop loin quand même. Est-ce que vous vous souvenez? Et est-ce que cela a changé quelque chose? Est-ce qu'il y a une mise en pratique en fait en lien avec ce qui a été lu? Parce qu'en fait, ne pas mettre en pratique ce que la Bible enseigne, c'est comme se regarder dans son miroir et constater, je vous avoue que j'ai failli le faire ce matin ici, mais j'ai quand même pas osé, vous n'avez pas pris le temps, que j'aurais constaté des grosses taches de tomates et de chocolat sur le visage. Hein. Je vais voir dans le miroir et qu'est-ce qui se passe? Je me dis, il faut que je prenne ma lavette et que je me lave. Mais je ne le fais pas. Puis je prends mon petit café, je me prépare, je lis mes messages et je viens ici. C'est ça, en fait, lire la parole et pas la mettre en pratique. Puis voilà, t'as tes taches de chocolat, de tomates sur tout le visage. C'est sympa. Et le miroir, dans Jacques, a un nom. Vous avez déjà vu, il y a un nom ici. Ce nom s'appelle la loi parfaite de la liberté. C'est le nom du miroir, en fait, dont Jacques parle ici. La loi parfaite de la liberté. Loi et liberté. Est-ce que ça peut aller ensemble, en fait? C'est étonnant, hein? Loi et liberté, généralement, c'est des choses qui sont à l'opposé. Eh bien, en Christ, elles sont réunies. Et en Christ, nous avons la loi parfaite de la liberté. Et dans ce miroir, loi parfaite de la liberté, nous voyons en fait deux choses. C'est un miroir particulier, en fait. On voit deux choses. Nous voyons notre péché révélé par la loi. Là, on voit toutes ces imperfections, c'est quelque chose qui reflète dans ce miroir. Et nous voyons dans ce même miroir le reflet de notre Seigneur qui nous libère du péché. On voit deux choses différentes. Peut-être qu'il faut juste se déplacer d'un centimètre, puis on voit la chose différente, je ne sais pas comment on peut l'imaginer. Mais c'est en même temps en fait. Et c'est comme ça que Dieu nous voit. Parce qu'en fait, Dieu est conscient de nos péchés. Mais Dieu nous libère de nos péchés par l'œuvre de Christ. Et donc, comme ce miroir de loi parfaite de la liberté, nous voyons notre péché révélé par la loi, et nous voyons dans ce même miroir le reflet de notre Seigneur qui nous libère du péché. Or, qu'est-ce que la liberté? Ça, c'est une grande question aussi. C'est quoi la liberté? Généralement, la liberté, c'est, on se dit, c'est faire tout ce que mon cœur désire. Ça, c'est la liberté habituelle que l'on dit. C'est faire ce que mon cœur désire. Mais que dit Jésus des désirs de notre cœur? Ce n'est pas très jojo, comme disent certains. Dans Matthieu 15, verset 19, il est dit « Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, meurtres, adultères, prostitution, vol, faux témoignages, blasphème. » Or, la liberté de faire ce que je désire est donc plutôt un esclavage des mauvaises pensées, du désir que l'autre disparaisse de mon chemin, d'un mensonge qui en amène un autre. Alors que suivre ce que Dieu nous indique, c'est être libre, avoir une conscience tranquille, être gardé de familles brisées, Quand on parle de cette notion d'adultère et tout ça, c'est s'il n'y a pas d'adultère, il n'y a pas de famille brisée. Ou, étant éloigné du mensonge, nous suscitons la confiance. Celui qui dit toujours la vérité, vous avez confiance en cette personne. Pensez-vous vraiment que le fait d'avoir la liberté de mentir, c'est être libre? Que la possibilité de tromper son mari ou son épouse, c'est la liberté? Ou même de voler quelques objets dans un magasin, vous rend réellement libre? Vraiment? Non, cela nous amène une mauvaise conscience. Cela amène en fait d'autres péchés en cascade, puisqu'un mensonge en appelle un autre pour le cacher, tout en ayant peur d'être découvert. Ce n'est pas la liberté. Et je vous assure que vivre dans la vérité est bien plus libre. C'est parfois humiliant, c'est vrai. Mais l'humilité n'est pas une mauvaise chose. L'humilité nous permet de progresser, de nous approcher de Christ. Vivre dans la fidélité, dans le respect de la propriété de l'autre, permet d'être heureux dans ce que nous faisons. C'est ce qu'il dit Jacques ici. Mais en le pratique activement, celui-là sera heureux dans son action même. Donc n'écoutons pas seulement, mais pratiquons la parole. Or, qu'allez-vous mettre en pratique aujourd'hui ? Rappelons-nous, ce n'est pas le fait d'écouter la parole. Une bonne prédication ne va pas changer nos vies si nous l'écoutons seulement, en fait. Mais la mise en pratique de ce que le Saint-Esprit nous permet de comprendre. Vous n'avez pas compris les 1000 choses que vous auriez voulu ? Mettez déjà en pratique les 2 choses que vous avez comprises. Et cela fera la différence. Passons à la suite du texte, le verset 26 et 27, notre deuxième point, la vraie religion. Si quelqu'un pense être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion est pure et sans tache devant Dieu le Père. La religion pure et sans tache devant Dieu le Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se garder des souillures du monde. Le texte de Jacques ne dit pas, comme certains aiment le dire, « Nous ne vivons pas une religion, mais une relation. » Ce n'est pas ce qu'il dit ici. Alors, c'est vrai que la relation avec Dieu est importante. Mais celui qui dit que nous ne vivons pas une religion, mais une relation, pense en fait à la religion vaine, pas à la religion pure qui est présentée ici. Il serait donc plus juste de dire que nous ne vivons pas la religion vaine, mais une religion pure et sans tache devant Dieu le Père. Nous ne vivons pas une religion vaine, mais une religion pure et sans tache devant le Père. Notre but n'étant pas de suivre une religion, mais suivre une personne. C'est Jésus-Christ que nous voulons suivre, ce qui se manifestera par une pratique religieuse pure et sans tache, selon Jacques 1, 27. Mais qu'est-ce que la religion? C'est un terme qui est connoté actuellement. Et je pense que ce terme, comme d'ailleurs le terme catholique, a été kidnappé par l'Église catholique romaine. Parce que catholique veut dire actuellement catholique romain, et non plus catholique universel. Une foi catholique, si on prend le terme, l'étymologie du terme, c'est une foi universelle. Ça n'a rien à voir directement avec la foi catholique romaine. Mais actuellement, je vous dis, j'ai une foi catholique, pour vous, c'est clair que vous dites, je suis catholique romain. Il était kidnappé ce terme. Et en fait, le terme religieux aussi. Pour beaucoup, en fait, quand on dit être religieux, ça signifie appartenir à un ordre religieux, s'y consacrer, et généralement par des vœux. Ça, c'est un élément qui vient à l'esprit quand on parle de religieux ou de religieuse. Ou alors on voit un religieux, c'est quelqu'un qui vit pour une religion et pratique des rites qui manifestent un attachement à la religion. La religion étant le point central. Pourtant, Jacques définit ici ce qu'est la religion pure et sans tache, que nous sommes d'ailleurs appelés à vivre. Et cette religion n'est pas le centre de notre motivation. C'est une conséquence. Dès le début de l'histoire de l'humanité, il y a eu des actes religieux. Caïn et Abel ont fait un sacrifice, c'est un acte religieux. Et la religion de l'un a été acceptée, et du premier a été refusé. Et Jésus indiquera plus tard d'ailleurs qu'il y a une religion que Dieu refuse. Il dit dans Matthieu 15, verset 7, « Hypocrite », il parle aux pharisiens là, « Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est très éloigné de moi. C'est en vain qu'il me rende un culte et enseigne des doctrines qui ne sont que préceptes humains. » Et là, Jésus fait référence au texte d'Ésaïe qu'on a lu tout à l'heure. Je vais vous le relire, qu'on l'ait un petit peu en tête, qu'on comprenne ici ce lien. Ésaïe 1, verset 11, « Qu'ai-je à faire des multitudes de vos sacrifices, dit l'Éternel ? Je suis rassasié des holocaustes de bélier et de la graisse des veaux. » Rassasié, ça ne veut pas dire là qu'il a eu assez mangé puis qu'il n'a plus faim. Il est en train de dire, en fait, ça me dégoûte. « Je ne prends pas plaisir au sang des taureaux, des agneaux et des boucs. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de fouler mes parvis ? Cessez d'apporter de vaines offrandes. L'encens me fait horreur. Quant aux nouvelles lunes, aux sabbats et aux assemblées, je ne puis voir le crime avec les solennités. » On commence à voir la raison. « Je hais vos nouvelles lunes et vos fêtes, elles me sont à charge, je suis là de les supporter. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand bien même vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de ma vue la méchanceté de vos actions, cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien, cherchez le droit, ramenez l'oppresseur dans le bon chemin. » Faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Venez donc et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges écarlates, ils deviendront comme de la laine. Donc, quand Dieu ici fait des reproches à son peuple, il définit ce qu'est la religion vaine. La religion que Dieu n'accepte pas, même que Dieu ne supporte pas. Car il veut un cœur entier à lui, et les actions vont suivre. C'est pas des actions pour que le cœur vienne à lui, c'est un cœur à lui pour que des actions soient vécues. La religion vaine, c'est tenter de faire plaisir à Dieu, de gagner son approbation. Mais c'est se tromper soi-même. Ça, c'est la religion vaine. C'est tenter de faire plaisir à Dieu pour gagner son approbation. Mais c'est se tromper soi-même. C'est comme si, allez, imaginons un serpent qui viendrait ronronner sur vos genoux pour tenter de vous faire croire que c'est un petit chaton mignon tout doux. Mais le serpent, il peut essayer de ronronner tout ce qu'il veut, de toutes ses forces, il restera un serpent. Il ne sera jamais un petit chat tout doux. Il faudrait en fait un changement de nature. Il faudrait que le serpent devienne un chat, alors il ronronnerait. Okay. Et justement, Jacques indique ici trois marques de la religion pure et sans tache. La religion acceptée par Dieu. En fait, ces trois marques indiquent que la parole de Dieu est mise en pratique. Vous vous souvenez, on a vu tout au début, mettez en pratique la parole de Dieu. C'était le début du passage. Et ici, en fait, il va dire qu'est-ce que ça implique dans la vraie religion, la religion pure et sans tache. Ces trois marques, quelque part, indiquent aussi une vraie naissance spirituelle. Ce sont trois marques du chrétien. Ce n'est pas les trois marques, c'est un échantillon de trois marques du chrétien. Et ces trois marques sont la langue maîtrisée, le souci des malheureux et se garder de la souillure du monde. Et si vous voulez juste trois mots, c'est parole, action, propreté. Parole, action, propreté. Trois choses que vous pouvez retenir. Ce ne sont pas toutes les marques du chrétien, mais ce sont trois échantillons. Donc, regardons le premier, la langue maîtrisée ou les paroles. La Bible parle souvent de la langue ou des paroles que l'on dit. Quand on a vu les proverbes, on a lu beaucoup de textes. Je vous en lis juste deux. Le proverbe 12-18, « Tel qui bavarde à la légère blesse comme une épée, mais la langue des sages apporte la guérison. » Ou encore, proverbe 21-23, « Celui qui garde sa bouche et sa langue garde son âme de la détresse. » Il y en a beaucoup plus dans le proverbe. Je vous ai donné un petit échantillon de deux. Vous pouvez relire. Et maintenant, dans le Nouveau Testament, Éphésiens est aussi très fort sur cette notion de ce qui sort de notre bouche. Éphésiens 4:29, que je cite très souvent quand on parle de communication, un verset à apprendre, à connaître, qui nous dit « Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole malsaine, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification nécessaire et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Puis un peu plus loin, dans le chapitre 5, verset 3, il dit que l'inconduite et toute forme d'impureté ou la cupidité ne soient pas même mentionnées parmi vous comme il convient à des saints. Pas de grossièreté, pas de propos insensés, pas de bouffonnerie, cela est malséant, mais plutôt des actions de grâce. Nous avons donc beaucoup de bons conseils dans la Bible sur la manière d'utiliser notre langue. N'oublions jamais que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ah non, mais je ne voulais pas dire ça. Mais c'est quand même de l'abondance du cœur que la bouche parle. La bouche est la fenêtre de notre cœur, en fait. La bouche est la fenêtre de notre cœur. Les paroles qui sortent de notre bouche indiquent ce qu'il y a dans notre cœur. Les paroles qui sortent de notre bouche indiquent ce qu'il y a dans notre cœur, ou parfois les paroles qui n'en sortent pas. Ça peut aussi arriver, hein, qui peut indiquer une colère sourde, par exemple, ou d'autres choses. Et pour Jésus, c'est tellement clair que les paroles indiquent ce qu'il y a dans le cœur, qu'il dira même en Matthieu 12, 36, je vous le dis, « Au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée, car par tes paroles, tu seras justifié, par tes paroles, tu seras condamné. » C'est le cœur qui détermine et qui déborde toujours. On déborde de ce qu'on est rempli, vous connaissez ça gentiment ici. Hein? Et le débordement du cœur passe par la bouche et sort en parole. Il est impossible d'avoir un cœur nouveau sans avoir une bouche nouvelle quelque part. Si vous dites « mon cœur a changé » et que vos paroles n'ont pas changé, il y a un très gros problème de connexion. Ça, j'en doute très fort. Ou simplement, il n'y a pas eu de changement. La vraie religion sait tenir sa langue en bride. Une critique arrive, est-ce que je vais la transmettre ou est-ce que je tiens ma langue en bride? Je reçois un ordre de mes parents, est-ce que je réponds avec insolence ou est-ce que je tiens ma langue en bride? Il ne s'agit pas de dérapage qui arrive et dont on s'en repent, mais d'une habitude ancrée. Le cœur changé change la bouche. Si ta langue ne permet pas de répondre, de reconnaître que tu es chrétien, ben faut te poser la question. En fait, comme on parle, devrait être une marque de qui on est. Et cela vient de Dieu, puisque c'est Dieu qui met dans notre cœur ce désir d'avoir des paroles qui soient selon lui, selon Éphésiens 4, 29. Donc la première marque de la vraie religion, ou d'un chrétien tout simplement, c'est de tenir sa langue en bride. Et Jacques développera cela encore plus tard dans sa lettre, nous le verrons au chapitre 3 particulièrement. Allons voir la deuxième marque, un amour actif envers les personnes dans le besoin. Donc on avait dit parole, action, ça c'est action. Celui qui aime Dieu, qui dit avoir une relation profonde avec Dieu, va aimer les autres croyants et ses prochains. Et cet amour-là, nous l'avons ou pas. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut créer. On ne peut pas le créer. Nous ne pouvons que le développer et le stimuler. C'est un amour qui est donné à celui qui est en Christ, comme un embryon a tout déjà ce qu'il a besoin pour devenir un être comme vous et moi. Simplement, ça doit se développer. Eh bien, cet amour qui est donné aussi pour les plus faibles, c'est quelque chose que l'on reçoit lorsque Dieu transforme nos vies. Comme un embryon a tout ce dont il a besoin pour plus tard marcher, parler, etc. Mais il ne va pas pouvoir créer ses jambes ni sa langue, mais il va pouvoir les utiliser. L'amour est appelé à être en action. Et Jésus va très loin en disant, et là c'est en lien avec la religion, si tu présentes ton offrande à l'autel, ça c'est un acte religieux si vous voulez, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, eh bien amène ton offrande et sois content.
Non, vous n'avez pas la même Bible que moi là si je dis ça.
Non, laisse là ton offrande devant l'autel, va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Présenter son offrande est un acte religieux. Le faire sans vivre l'amour avec son frère et la recherche de réconciliation, c'est vivre une religion vaine que Dieu déteste. Donc présenter une offrande est un acte religieux, ça peut être, nous on peut le faire sous forme de chant, de prière, enfin toutes sortes de moyens pour offrir une offrande. Mais le faire sans vivre l'amour envers son frère
Et la recherche de réconciliation, c'est vivre une religion vaine que Dieu déteste. Et Jacques parle ici d'ailleurs d'un amour envers les veuves et les orphelins. Il est bon de prendre soin des veuves et des orphelins, et il y en a dans l'Église. Mais cette expression, en fait, est un résumé. Les veuves et les orphelins nous indiquent ceux qui sont dans le besoin, qui ont besoin d'être protégés, qui sont vulnérables, en fait. Et j'aime cette parole dans le psaume 68. Dans le psaume 68, il y a une parole extraordinaire. Alors, je vais vous la lire, parce qu'elle est vraiment extraordinaire. Donc, écoutez bien. Le père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa sainte présence, ou dans sa sainte résidence. C'est lui, en fait. Il prend soin, il défend les veuves et les orphelins. Dieu aime au point de donner ce qu'il a de meilleur pour nous adopter. Il nous accueille comme un père parfait. Il est notre source, notre force, notre exemple et notre réconfort. Jésus a parlé d'une situation qui démontrait une religion vaine. Lorsqu'un homme a été blessé et laissé pour mort au bord de la route. Et voilà qu'un homme passe à côté de ce blessé. Que fait-il? Il le regarde, sûrement. Peut-être même rapidement. Et il passe son chemin. C'est la religion vaine. C'est la religion vaine. Il y en a même un deuxième qui passe. Puis vous connaissez la suite. Ensuite, il y a un Samaritain, quelqu'un qui est rejeté de tout le monde. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il s'arrête et il prend soin. La vraie religion, la vie chrétienne, une personne née de Dieu, a un amour actif envers les personnes qui sont dans le besoin. Alors c'est vrai que nous ne pouvons pas répondre à tous les besoins de toutes les personnes sur Terre. Des fois, il y a un peu comme ce poids qui peut arriver. Il ne faut pas le prendre. Ça appartient à Dieu. C'est Dieu qui prend soin de toutes les personnes, de tous les besoins sur Terre. Mais nous sommes appelés à manifester un amour en action pour ceux qui sont autour de nous, et premièrement aux gens de nos familles. Le Saint-Esprit nous dit par Paul, « Si quelqu'un n'a pas soin des siens, surtout de ceux de sa famille, il a renié sa foi et il est pire qu'un infidèle. » Donc si on vous dit dans un endroit, il vous faut couper les ponts avec votre famille, c'est pas biblique. C'est pas biblique. Ça fait partie de prendre soin. Nous pouvons faire toutes les prières que nous voulons, participer à toutes les rencontres d'église que nous voulons, voire même donner beaucoup d'argent. Si nous ne prenons pas soin des nôtres, selon nos capacités, nous avons renié la foi et sommes pires qu'un infidèle. Voilà ce que la Bible dit. Mais celui qui est en Christ a cet amour pour ceux qui sont dans le besoin. C'est présent. Après, on va le stimuler, on va l'encourager, évidemment, dans nos vies. Donc le deuxième échantillon des marques du chrétien est donc l'amour en action pour les plus faibles. Passons au troisième, c'est la séparation du monde, où j'ai appelé ça la propreté. La propreté, selon Dieu, ce n'est pas avoir une checklist et cocher des cases de ce que nous n'avons pas fait, de ce qui est interdit. C'est pas ça. En fait, la propreté, selon Dieu, c'est une question d'amour exclusif. C'est ça, en fait. C'est un amour exclusif. Dieu et le monde sont totalement incompatibles. Ils sont totalement incompatibles. Voici ce qui est dit dans 1 Jean 2,15. N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Donc la troisième marque du chrétien dans cet échantillon est donc se garder des souillures du monde, ou rester propre, si vous voulez, pour s'en souvenir. Et nous arrivons donc à la conclusion. Qu'allons-nous retenir? On a vu dans la première partie, mettez en pratique la parole de Dieu et ne l'écoutez pas seulement. Peut-être qu'une bonne habitude pourrait être dans chaque prédication ou chaque fois que vous lisez la parole de Dieu, de mettre un élément, de dire voilà, qu'est-ce que je vais mettre en pratique maintenant suite à ce que j'ai lu, entendu ou compris. Une chose, n'en prenez pas 10, une chose. Et vous pouvez même le dire à quelqu'un, comme ça la personne peut vous demander le lendemain, est-ce que tu as pu mettre en pratique? Puis la personne peut même prier pour vous, parce qu'on s'encourage. Et on n'est pas là pour se juger, on est là pour se stimuler. C'est important. Et quand on le dit réciproquement, ben ça nous stimule évidemment à le faire aussi ensemble, en comptant sur l'œuvre de Dieu et de Christ. Et la vraie religion porte trois marques. Est-ce que vous vous souvenez des trois mots? Parole, action, propreté. Et parole, c'est tenir sa langue en bride. Action, c'est un amour actif envers les plus faibles. Et propreté, c'est se garder des souillures du monde. C'est trois marques, en fait. C'est trois choses qu'un chrétien désire vivre. On ne le vit pas parfaitement encore, c'est vrai. Ce n'est pas une question de le vivre parfaitement. C'est un désir que Dieu met dans notre vie et où on met des moyens aussi pour le vivre par sa grâce. Jésus est notre source de parole, d'action et de propreté. Et c'est à lui que nous voulons donner notre louange. Nous allons prier pour terminer. Éternel notre Dieu, nous te remercions pour cette épître de Jacques qui a commencé par nous parler des épreuves, que nous pouvions même voir les épreuves comme une source de joie, parce que nous voyons que tu œuvres dans ces épreuves pour nous former à l'image de Christ, pour nous rendre toujours plus patients. Et Seigneur, nous te remercions parce que Jacques continue dans sa lettre de nous donner des éléments qui nous aident à comprendre ce que signifie la volonté de Dieu et qui nous permet de voir comment grandir aussi en maturité. Et j'aimerais te remercier pour cette notion de mettre ta parole en pratique. C'est vrai que c'est tellement simple. L'idée est facile à comprendre. Mais Seigneur, j'aimerais te prier que ce ne soit pas juste une idée que nous ayons entendue, mais que nous cherchions réellement à trouver comment et quoi mettre en pratique dans nos vies, aujourd'hui, demain. Nous te remercions parce que tu nous donnes la grâce de vivre une religion pure et sans tache. Nous n'avons pas honte de dire que nous vivons une religion, mais ce n'est pas une religion vaine, ce n'est pas des choses extérieures pour montrer quelque chose qui n'existe pas à l'intérieur. Oh non Seigneur, nous désirons plutôt que notre cœur soit transformé et jaillisse dans nos bouches, jaillisse dans nos actions et jaillisse dans notre séparation du mal. Seigneur, nous avons besoin de toi et nous venons à toi pour te dire merci parce que Christ a vécu une vie parfaite avec des paroles parfaites. Christ a eu une compassion pour ceux qui étaient dans la difficulté telle que nous n'en avons jamais vu. Il nous donne un exemple et en même temps, il nous permet, Seigneur, d'être apaisé parce qu'il l'a vécu aussi pour nous. Et il a été complètement séparé du monde. Et cela, Seigneur, il l'a fait pour que nous puissions être sauvés, pour que nous puissions être vivants au travers de lui. Et Seigneur, ton miroir est particulier parce que ton miroir nous permet de nous voir en même temps, de voir nos péchés pour nous en détourner, et en même temps de voir Christ se refléter parce que c'est lui qui est notre espérance. C'est lui qui est notre assurance. Dans le beau nom de Jésus-Christ, amen.
L'enseignement est maintenant terminé. Si vous désirez profiter d'autres ressources de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel, n'hésitez pas à visiter le site www.erbn.ch. Que l'Éternel vous bénisse dans sa grâce.